BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club MediaRH.com, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du recrutement, du management, des ressources humaines d'une manière générale et la découverte. On est heureux comme chaque samedi de passer cette heure, ce début de samedi après-midi en votre compagnie. J'espère que ça va être le cas pour vous aussi. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Il va en être question avec Antoine Naman, qui est le président de ISS. ISS, une entreprise danoise, plus que centenaire, leader mondial du facility management. Il s'agit d'un des plus grands employeurs internationaux avec plus de 510 000 collaborateurs dans 50 pays, dont la France. On verra dans le détail. Tout de suite d'entrée de jeu, puisque on veut vous aider à recruter votre futur employeur. Sachez que ce sont 100 postes de cadre, de très belles opportunités d'emploi dans cette très belle entreprise qu'on va vous présenter dans quelques instants avec son président. Alors, il sera question de management avec notre expert RH, Nadège Joyeux. Elle vient une fois par mois. Elle veut nous présenter Sébastien Henry. Lui, il est expert de la méditation de pleine conscience. Voilà, vous allez tout savoir dans quelques instants. Mais cela, bien sûr, au profit du leadership. Elle va tout nous expliquer. Elle est l'experte et elle a carte blanche pour nous aider à comprendre un peu mieux. C'est un écrivain, hein, Sébastien Henry, par ailleurs. Il a écrit beaucoup de bouquins sur ce thème. Alors, une fois par mois également, c'est Laurent Bernelin, qui est directeur adjoint de BVA Opinion et qui, très gentiment, comme à chaque fois, va nous permettre de découvrir ce que pensent les Français sur un sujet lié à notre thème, qui est celui de l'emploi. On a cartonné il y a un mois avec le faire éluger dans l'entreprise. Tout le monde a repris ce thème-là dans toute la presse. Ça va être sans chance, j'espère, le cas avec à nouveau un thème, celui des salariés et du droit du travail. C'est d'actualité avec la politique. On en parlera également avec lui. Et enfin, pour terminer, comme the last but not the least, comme disent nos amis anglais, un invité témoin qui n'a rien à voir, avec l'emploi et l'économie et tout ce qui s'ensuit. Je vais essayer de ne pas me tromper. Elle est la fondatrice d'une maison d'édition et c'est à ce titre-là que je suis ravi de vous la faire découvrir. Elle s'appelle Diane de Cellier et le livre magnifique, illustré, dont elle va nous parler, c'est la Bhagavad Gita. Voilà, en indien, ça veut dire le chant du bonheur. Un magnifique livre illustré de la peinture indienne. Vous allez en savoir plus dans quelques instants. Bonjour Diane de Cellier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer.
Écoutez, moi aussi, je suis très honoré de participer à votre émission.
Alors, vous êtes la fondatrice d'une maison d'édition qui porte votre nom.
Oui.
C'est un prétexte, ce livre, mais pas seulement. Hein, on va en parler de ce beau livre parce qu'il vous tient à cœur. C'est un livre qui fait combien de pages ?
Oh, il fait 350 pages.
Ouais. 12 et... mètres sur 12.
Non, il n'est pas très grand.
C'est un énorme livre.
Il fait 33 centimètres sur 24.
Non, il est énorme. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui s'intéresse à quoi ? À la fois à l'Inde. À l'histoire. Racontez-moi.
Alors,
c'est une histoire en même temps.
Oui, je vais vous dire, c'est avant tout un beau cadeau pour quelqu'un qui s'intéresse à une forme de spiritualité, une forme de culture et à la peinture, à l'art en général. C'est vraiment un livre qui est un enseignement hindou, le premier enseignement hindou, qui raconte, pour le faire rapidement, c'est la façon de se comporter dans la vie en faisant son devoir, en combattant, en l'occurrence, il s'agit d'un combat, mais en le faisant dans le détachement, c'est-à-dire en ne cherchant à retirer du bénéfice de ses actes, ni gloire et joie excessive en cas de victoire, ni chagrin en cas de défaite. Vous voyez, on est en plein dans l'actualité.
Je souris, voilà, vous voyez ça, parce que juste avant d'entrer dans le studio, on s'est dit, tiens, c'est un rapport avec notre actualité politique en France.
Mais oui, ça presque. Fait, si vous voulez, le principe, je vais vous la faire très brève, mais vous avez Arjuna, qui est un guerrier, qui doit combattre contre ses cousins pour récupérer le pouvoir. Donc c'est un combat fratricide.
Alors les cousins, c'est...
Les cousins, voilà.
Dans la même famille politique, voilà.
Voilà. Et alors, il est au milieu de la bataille qui va être déclenchée, et il se tourne vers son cocher qui est Krishna, qui n'est autre que le descendant du dieu Vishnu, et lui dit, écoute, je n'ai aucune envie de me battre, je n'ai aucune envie de verser le sang de mes cousins, je préfère partir en exil.
Alors ce Bhagavad Gita, littéralement chant du bienheureux, c'est le passage le plus célèbre, c'est ce que j'ai lu en découvrant votre livre, du Mahabharata.
Bharata.
Bharata, la grande épopée guerrière indienne composée vraisemblablement, dit-on, autour du deuxième siècle, c'est ça?
Ah bah oui, du deuxième siècle avant ou Jésus, après Jésus-Christ.
Avant
ou après, les experts n'ont jamais réussi à s'entendre sur une date exacte.
Il est composé de 18 chants. Et c'est un texte fondateur de la philosophie et de l'enseignement du yoga. C'est un rapport, finalement, on ne l'a pas fait exprès, avec notre invité que Nadège Joyeux va nous présenter, Sébastien Henry.
Ah oui, tout à fait. Nous en parlions avant de rentrer, parce que le yoga, c'est une forme d'ascèse. C'est le yoga de la connaissance, le yoga de l'action, le yoga de la dévotion. Il y a différents types de yoga. Mmh. Mais en tout cas, le principe même, c'est de développer son comportement et sa tenue personnelle par un entraînement, justement, à la pensée, au fait de chasser ses pensées et aussi d'être dans une forme de non-agir, c'est-à-dire ne pas faire, ça veut dire agir, mais dans le détachement. C'est d'ailleurs Gandhi qui disait le premier, la Bhagavad Gita, c'est mon Coran et c'est ma Bible, mais elle est bien plus que cela, elle est ma mère. Et toute sa politique pacifiste qu'il a menée au cours des années, c'est dans l'enseignement de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire la non-violence, donc l'action de la non-violence, et également tous les hommes sont égaux. Voilà, c'est les deux grands principes.
C'est un monument littéraire énorme, dit-on.
Alors le Mahabharata, c'est énorme dans sa grandeur et dans son contenu, et la Bhagavad Gita, c'est 18 petits chapitres qui sont cet enseignement spirituel et en même temps cet enseignement de
vie. Et c'est illustré, votre livre, celui que vous avez édité, qui est magnifique, qui est illustré donc
par la peinture indienne. Ce sont des miniatures qui vont, alors c'est très difficile, c'est la première fois au monde qu'il est illustré, parce que c'est très difficile d'illustrer un texte qui est un texte philosophique.
Alors, je vais tout de suite donner la parole, et on va en savoir plus avec lui sur son entreprise, ses objectifs, etc., à Antoine Naman, président du ISS France, mais parce qu'il a reçu ce livre. On vous l'a fait parvenir.
Tout à fait.
Vous l'avez pas encore complètement...
Non, j'ai écouté un petit peu et j'ai partagé au tout début de l'émission. C'est vrai que ce livre, cet ouvrage est fantastique et sublime, très très beau. Et effectivement, dans ces périodes, de pouvoir parcourir ce livre. Alors, l'histoire est un petit peu compliquée, je suis content que vous puissiez l'expliquer. J'ai lu un tout petit peu et je vais le parcourir.
C'est un peu compliqué, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Vous savez, si vous voulez lire des textes comme ça, c'est Paul Claudel qui le disait en parlant de l'Apocalypse. Il ne faut pas chercher à comprendre l'Apocalypse, il faut se promener dedans.
Juste un mot, parce que vous parliez, j'ai eu la chance et la joie de faire un ou deux voyages en Inde. Vous parliez de Gandhi. Et moi, en allant en Inde, j'ai découvert que j'ai compris Gandhi. C'est parce que j'avais... Mais c'est une analyse personnelle. Ah oui. C'est que j'ai découvert que les Indiens étaient en fait certainement un peuple violent. Et c'est pour ça qu'il a parlé de non-violence. Bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est un grand débat.
c'est une
vision. Alors, moi, je suis content de vous rencontrer, Diane de Sellier, parce qu'on parle d'emploi dans cette émission, de management. Et comment, en 2011... à l'heure du numérique, du data, et comment est-ce que du jour, non peut-être pas du jour au lendemain, mais un jour on se décide à devenir éditeur sur du papier, Gutenberg?
Ah, bah écoutez, c'est un métier qui est vieux.
Parlons
comme,
de votre métier,
vieux
oui.
comme Gutenberg, si j'ose dire, même peut-être encore plus long. La façon dont je suis rentrée dans ce métier, c'est par l'amour du livre déjà, et puis une opportunité qui m'a été donnée de découvrir ce métier. C'est un métier qu'on apprend essentiellement sur le tas, et d'avoir une véritable passion.
D'école.
D'école, s'il y a DESS, il y a DESS, plusieurs DESS d'ailleurs d'édition qui sont très très bien aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'école,
à
Paris. Il y en a un à Villetaneuse, qui est celui qui est le plus reconnu, mais la Sorbonne est excellent aussi, il y en a plusieurs, et c'est vrai que toutes les personnes que nous avons la chance de recruter qui sortent de ces écoles d'édition sont très très bien formées.
Alors, vous recrutez? Vous avez besoin de recruter des gens?
On recrute régulièrement. Là, on a une toute nouvelle équipe. Donc, pour le moment, exactement, on ne recrute pas. Mais on recrute régulièrement et on forme énormément de jeunes à ce métier qui viennent en stage professionnel chez nous pendant la durée de leurs études.
Bah, à l'occasion, si vous en avez besoin, vous nous le direz. On vous fera revenir pour parler, pour vous donner un coup de pouce. Quand
avec grand plaisir.
On est là pour ça, nous, entre les auditeurs de BFM Business qui sont très attentifs dans cette émission et ceux qui ont des postes à proposer, on est là pour aider les deux.
Alors, pour le moment, tout de suite, on vient de reconstituer une nouvelle
équipe. Sinon, on va avoir plein de mails.
Le jour où ça se présente, je vous le dirai.
Encore un mot. Alors, donc, comment devient-on éditeur?
Alors, c'est un métier quand même qui s'apprend essentiellement sur le tas, parce que chaque maison d'édition, que ce soit jeunesse, beau livre, livre d'art, littérature, scolaire, parascolaire, dans le livre d'art.
Oui.
Dans le livre d'art de très, très haute qualité.
Et alors,
c'est un métier passionnant. Notre métier, véritablement, consiste à faire des recherches iconographiques dans le monde entier pour retrouver les images les plus fortes et souvent les plus inédites pour accompagner un texte littéraire.
Vous restez avec nous, Yann, et on va continuer à découvrir votre métier d'éditeur, parce que vous n'avez pas encore tout répondu. Je suis très curieux, je ne vais pas vous lâcher. Comment est-ce qu'on devient éditeur? Combien d'argent il faut? Je suis très curieux, et on va aller jusqu'au bout, on est sur BFM Business.
Avec grand plaisir.
Si vous acceptez de vous livrer.
Oui. Il n'y a pas de secret pour vous.
J'ai compris pourquoi vous le faites. Il faut de la passion, bien sûr, aujourd'hui, pour se lancer. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Quelles sont les difficultés pour ceux qui voudraient se lancer également? Et on est là, vous savez, dans cette émission, chaque samedi, on défend la culture, on essaye de défendre les éditeurs, de défendre les auteurs et de dire allez dans les librairies. Ce sont des endroits magnifiques. Les librairies, il faut à tout prix aider les libraires, aider les écrivains et on est là pour le dire,
le crier. J'ai eu la chance d'être invité à une émission, à faire des conférences dans une école qui apprend au métier de libraire et j'ai été passionnée par l'enthousiasme de ces jeunes et leur attention à tout ce que j'ai pu leur dire pour bien comprendre notre facette du métier.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors Antoine Naman, on va rentrer dans le dur. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire de l'émission, puisqu'on va parler d'emploi avec vous.
Bien sûr.
Vous êtes le porte-parole de. Vous êtes l'invité témoin côté entreprise, et on est ravi de donner un grand coup de projecteur sur ISS. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, je crois, dans cette émission.
Tout à fait. On s'est déjà rencontré.
C'est une belle entreprise. J'aimerais que d'abord que l'on. Je reprécise que ce sont une centaine de postes cadres à pourvoir.
Tout à fait.
Chez vous, chez ISS. On va redonner les éléments de base. Dans l'autre partie, on parlera de cette notion de sens du travail. Vous allez voir, ça aura un sens dans la deuxième partie de l'émission avec Laurent Bernelat et l'enquête qui a été menée sur les salariés et le droit au travail. Le sens du travail, c'est intéressant. Mais d'abord, parlons d'ISS. Je disais que vous êtes le leader mondial du facility management et l'un des plus grands employeurs internationaux avec plus de 510 000 collaborateurs présents dans 50 pays.
On est le quatrième employeur mondial privé. Premier employeur étranger en France, un peu plus de 500 000 personnes effectivement au niveau mondial et 25 000 personnes en France.
C'est beaucoup, 25 000.
C'est pas un reproche. C'est pas mal.
Et vous continuez à recruter?
Tout à fait. On continue à recruter. Notre cœur d'activité, c'est les services. Mmh. Et les services, on les délivre avec les personnes qui travaillent chez nous. Et on est une entreprise qui continue à se développer en recrutant, en travaillant avec de la main-d'œuvre que l'on forme, que l'on accompagne pour délivrer les services. Et c'est comme ça qu'on fait la différence dans nos services.
Alors, c'est mon métier d'être curieux. Alors, prenons un exemple concret. J'aime bien poser cette question. Concrètement, le métier du facility management, qu'est-ce qui se cache? Non pas se cache, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce qu'on peut donner des exemples de métiers que le vôtre?
On peut prendre peut-être une entreprise lambda qui a son siège à Paris, par exemple, voilà. Ou n'importe où en France. Ben, quand vous arrivez dans ce bâtiment, il y a des choses qui sont faites par des entreprises comme les nôtres, notamment l'accueil. Ça commence par l'accueil, quand on va vous recevoir.
Les hôtesses d'accueil.
Vous allez avoir un sol qui va être parfaitement propre. C'est la propreté de ces locaux.
Ah, c'est pas les hôtesses qui nettoient les hôtesses.
Non, c'est d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui nettoient, qui s'assurent de l'entretien.
Alors attendez, on reprend dans l'ordre. Les hôtesses, c'est vous qui les formez, qui les recrutez.
Si on les recrute pour la société
dans laquelle on vient d'entrer.
Tout à fait. Hein,
et elles sont payées par vous, elles sont formées. Et elles sont formées par rapport au service qu'elles doivent rendre dans l'entreprise.
Alors, dans l'accueil, et suivant les typologies de clients que l'on a, la formation sera différente. Si on est dans un siège social, si on est dans une banque, si on est dans un secteur plus industriel, ben, la formation, l'accueil et le contact avec les clients ne sera pas tout à fait le même.
D'accord.
Donc, il y aura une formation plus ou moins adaptée suivant la typologie de clients que l'on va adresser.
Alors, on continue dans l'entreprise. On est à la radio, mais on imagine le chemin. On est à l'accueil, on nous propose de nous asseoir
On vous accueille, on va vous donner votre badge, on va voir qui vous
le
venez
badge chez
visiter.
Vous aussi, non.
Bien sûr, on va donner
toujours.
Le badge, bien sûr.
Oui.
Et ensuite, on va vous accompagner, on va appeler bien sûr la personne que vous venez visiter et on va vous permettre de rentrer dans le bâtiment. Ensuite, quand vous allez emprunter l'ascenseur éventuellement, si vous montez dans le bâtiment avec l'ascenseur, on va s'assurer que l'ascenseur soit toujours en bon état.
Là,
et
c'est
fonctionne.
Encore vous. C'est un autre service.
C'est un autre service qui va s'assurer de l'assurance. Pardon?
Vous disiez le sol, juste avant, le sol de
l'entrée. Alors oui, bien sûr, il y a tout l'entretien, toute la propreté de tout le bâtiment. Dans tous les endroits où vous allez pouvoir traverser ce bâtiment, vous allez voir que tous les endroits sont propres et l'objectif, c'est justement que vous ne voyez rien.
Ça, c'est ISS. C'est votre facture.
Tout
soit clean, tout soit... Alors, on continue l'ascenseur.
Alors après, vous allez voir votre interlocuteur, puis il y a quelqu'un qui va passer et qui va remettre du courrier. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de choses qui s'échangent par par papier, par lettre.
Tant mieux.
Et nous allons trier ce courrier, nous allons le distribuer dans l'entreprise. vous pouvez avoir un petit peu plus tard des reprographies à réaliser. On doit préparer un certain nombre de copies. On va le réaliser aussi pour le client.
Alors ça va être tout ça,
tous ces services qui sont voilà en accompagnement de dans l'entreprise sur tous les services qui sont pas cœur de métier pour elle.
Alors c'est eux qui entrent dans les fameux 25 000 personnes en France.
Tout à fait.
Tous ces collaborateurs à tous les niveaux. Il y a aussi des cadres, j'imagine.
Il y a des cadres et il y a des personnes qui réalisent des services directement sur le terrain. Alors ça continue après, parce qu'après, quand vous sortez, il faut bien que vous déjeuniez. Donc vous allez déjeuner et on va s'occuper également.
Ils sont partout, ISS.
On va s'occuper également.
C'est vous qui épluchez les carottes.
De vous accueillir. On va fournir des repas, bien sûr, et on va s'occuper de tout ce qui est accueil autour de. Et ça va aller peut-être un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de différents services que l'on va réaliser, on va essayer de vous accompagner. On va essayer d'accompagner nos clients sur différents domaines.
Par exemple,
quand vous êtes à votre bureau, quand nos clients sont à leur bureau, vous voulez aller déjeuner. Ben, vous allez, dans certains nombres de cas, vous allez déjeuner, vous allez descendre dans le restaurant d'entreprise. Et là, vous allez arriver à la cantine. Zut, il y a 15 minutes de queue. Ben nous, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de vous accompagner et on va essayer de vous donner une information préalable. C'est-à-dire qu'avant d'aller descendre déjeuner à la cantine, vous allez regarder sur une application, vous allez regarder sur un serveur qu'on va vous mettre à disposition, éventuellement avec une image qui va vous dire ben la queue, elle est de 5 minutes ou elle est de 15 minutes.
Je crois que vous allez me dire, vous mettez à ma disposition un garde du corps pour...
Non, pour on pourrait éventuellement vous livrer le déjeuner à votre bureau si votre employeur le permet.
Qui sont vos clients ? Ce sont des grandes entreprises ?
Toutes les entreprises françaises. On a plus de 60 000 clients aujourd'hui en France, donc toutes les grandes entreprises. Alors, pas toutes pour le même niveau de service. Certaines entreprises achètent nos services et prennent l'intégralité des services. Donc, on va tout réaliser ce qui n'est pas cœur d'activité chez elles. Et d'autres vont acheter un service à la carte. L'accueil, la gestion du courrier, la propreté.
Alors, vous êtes présent, ISS est présent, j'imagine, auprès de ses clients dans toute la France. Vous avez des agences automatiquement.
On a un réseau de plus de 100 agences à travers la France. Donc effectivement, on est un petit peu partout en France. Oui. Dans les grandes villes, mais également dans d'autres villes de plus petite taille.
Votre entreprise, votre marché est-il aujourd'hui stabilisé, est-il en croissance ? Et vous, comment vous positionnez-vous, vous, ISS ?
Alors, c'est un marché en croissance, pourquoi ? Parce qu'on a une partie de l'externalisation qui a déjà été réalisée dans un certain nombre de sociétés, mais cette externalisation se poursuit. C'est-à-dire qu'il y a encore des sociétés qui continuent à externaliser en partie leurs services à des sociétés comme les nôtres, et nous, on continue à se développer, bien sûr, sur l'ensemble des services que nous proposons. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est notamment un certain nombre de services à travers la France, à travers les réseaux, et également sur une gamme plus large de services que l'on peut rendre à nos clients. Ça veut dire que sur des opérations de nettoyage, sur des opérations de maintenance, sur des opérations d'accompagnement, sur différents types de services que l'on peut réaliser, mais aujourd'hui, on essaie de les réaliser de manière la plus globale possible sur l'ensemble du territoire.
Alors, je le disais dans l'introduction, Antoine Naman, que vous êtes le premier employeur étranger en France.
Tout à fait. Hein,
ça, c'est officiel.
Privé.
Voilà, vous avez raison.
De préciser. Étranger, oui.
Dès que ça va réduire l'autre côté,
tout
vous avez entendu. Hein, chaque année, vous proposez environ un millier de CDI, ça reste le cas, c'est ça, non ?
Ou pas ? On a une centaine de postes de cadres, et après sur la population qui est œuvrante, ça varie d'année en année.
Oui. Mais effectivement, mais c'est les agents de terrain et les techniciens, ce sont des CDI.
Tout à fait.
Les gens sont engagés.
On a les deux. On a une partie CDI et on a une partie CDD sur des compléments d'activité.
Antoine Naman, sur les cadres que vous souhaitez recruter, qui vous écoutent là en ce moment, qui recherchez-vous précisément ?
Alors, on recherche tout d'abord des profils qui sont avec une volonté de travailler dans le service, avec des personnes qui ont un état d'esprit fort, avec une volonté de travailler dans un monde humain. Oui. Et avec, je dirais, trois dominantes principales, 50% sur des dominantes opérationnelles, partout sur le territoire français, 30% sur des dominantes plutôt commerciales, alors il y a un certain nombre de postes, on pourra peut-être revenir dessus un petit peu plus tard,
oui.
Et 20% sur des postes que l'on appelle dits supports, dans la finance, dans les achats, dans la gestion de projet, et ça, bien entendu, sur toute la France.
La qualité, vous qui êtes le patron d'ISS France, et on a la chance de vous avoir, allez, vous allez le glisser dans l'oreille des auditeurs. L'homme qui glissait, qui parlait à l'oreille des auditeurs de BFM Business. Allez, alors, qualité que vous attendez chez les candidats.
L'engagement. L'engagement, et on travaille beaucoup aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que L'état d'esprit, l'engagement sont des valeurs essentielles chez nous.
On pense. Ça veut dire quoi concrètement? Je reprends l'exemple tout à l'heure. Je rentre dans le hall de l'immeuble.
Vous avez envie de travailler avec de l'humain. On est une entreprise très intense en main d'œuvre.
Bien sûr.
Vous avez envie de travailler avec le contact humain. Beaucoup de personnes qui rentrent chez nous ont cette caractéristique. Vous la retrouvez systématiquement. Et on veut que ce soit des gens qui aiment l'humain, qui ont envie d'accompagner, qui ont envie de former, qui ont envie de pouvoir être en contact avec d'autres personnes. Oui. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la qualité la plus difficile à faire progresser quand vous avez quelqu'un en entreprise. Sur la partie technique, on peut former, on peut accompagner. Sur la partie engagement, sur la partie contact humain, c'est plus compliqué.
Voilà, c'est ce que Jérôme Aubry, qui travaille avec vous à la communication d'ISS, me disait. C'est un point commun entre tous les collaborateurs, du plus bas au plus haut.
Tout à fait. On le retrouve à tous les niveaux de l'entreprise.
Oui. Enfin, ce que vous avez à offrir à ceux qui vous écoutent toujours et qui sont prêts à aller sur Internet pour postuler, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, en venant chez ISS, qu'est-ce que vous allez offrir?
Alors, on vous offre beaucoup de choses. Une entreprise qui travaille au cœur de l'homme, des femmes et des hommes qui travaillent pour nous. On accompagne énormément de personnes. Alors, on a des métiers chez nous qui sont assez simples, qu'on essaie de former, qu'on essaie d'accompagner. Mmh. On travaille beaucoup sur l'ascenseur social. Et ces personnes qui viendraient nous rejoindre, tout à fait, dans les cadres notamment, vont pouvoir travailler sur ce genre de problématiques et vont pouvoir accompagner. On leur offre la possibilité d'avoir une carrière au sein de l'entreprise. On a énormément de postes dans différents domaines et les passerelles sont tout à fait possibles chez nous. Que ce soit en France, que ce soit dans différentes régions de France ou que ce soit vers l'étranger.
Alors Antoine Naman, on fait une première pause avant de passer justement à un autre sujet. Mais d'abord, une question de notre invitée Diane de Sellier.
Allez-y. Oui, alors la question que je voulais vous poser, visiblement en vous écoutant, vous suivez les entreprises pendant toute l'année. Est-ce que vous faites aussi de temps en temps des opérations ponctuelles pour une entreprise?
C'est une bonne question, c'est des contrats à l'année.
C'est une très bonne question. Alors on a une partie de notre activité qui est effectivement ce que l'on appelle sous abonnement, où on va facturer des services et on va réaliser des services toute l'année. Et il y a ce que l'on appelle l'activité de travaux. Donc on va intervenir sur différents domaines, dans différents domaines pour différents types de services, où on va intervenir de façon très ponctuelle, effectivement dans l'année, sur peut-être un nettoyage, peut-être très fort sur à un moment donné, un instant T.
Par exemple,
sur les chantiers, sur un chantier naval, on va nettoyer le bateau avant qu'il parte et qu'il soit mis à la mer.
Alors, ça vous demande d'avoir des équipes qui sont mobiles et qui ne sont pas strictement attachées à une entreprise en particulier?
On en a plusieurs. On a plusieurs types d'équipes. On a des équipes qui sont mobiles et on a des équipes qui sont sédentaires.
Il y a des gens qui peuvent travailler pendant un an, deux ans dans la même entreprise.
Oui, et c'est pour ça qu'on a aussi un volant de personnes qui sont en CDD chez nous, qui nous permettent d'ajuster la volumétrie de l'emploi dont on a besoin.
On peut prendre l'exemple de l'arbre de Noël, ça va arriver bientôt. Là, il y a une équipe spéciale qui va le hall de l'immeuble.
Alors, sur les
celui
de,
dans
Noël,
lequel, de votre client dans lequel on était entré, avec la
c'est généralement, les équipes qui sont sur site qui vont installer l'arbre de Noël, effectivement. Mais on a quelques équipes de polyvalent qui se baladent et qui vont installer des arbres de Noël effectivement dans certaines entreprises.
Vous restez avec nous parce qu'on a des experts là dans le studio qui vont nous parler de méditation. On va revenir sur l'idée de la méditation. Alors la méditation en pleine conscience, c'est tout de suite.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Bonjour Nadège Joyot.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être avec nous Nadège Joyot, c'est notre experte, notre charmante experte qui une fois par mois vient, qui parcourt à la fois les parutions de bouquins d'experts justement et qui choisit un thème. Ce mois-ci, vous avez voulu vous intéresser?
Alors à la méditation de pleine conscience, donc c'est quelque chose qui se développe considérablement dans les entreprises, c'est une vraie tendance. Alors moi je vous en parlerai pas, en revanche je vous ai amené dans ma hotte Sébastien Henry qui est une référence aujourd'hui sur le sujet. Alors Sébastien, vous avez un parcours assez atypique et c'est très intéressant parce que vous reliez vraiment ce sujet de la méditation de pleine conscience. Alors attention, les auditeurs vont peut-être zapper, donc je leur dis tout de suite que c'est très concret, que ça n'est pas de la spiritualité,
c'est pas religieux,
c'est pas une retraite, enfin il y a des outils autour de ça, mais c'est quelque chose qui aussi constitue un levier de développement et de bien-être dans son travail. Alors Sébastien, vous avez un parcours à l'origine plutôt classique, de très bon élève, l'ESSEC, marketing dans un grand groupe international, expatriation en Asie, et puis là, un choc.
Badaboum,
la méditation de pleine conscience. Alors, est-ce que ça s'est fait par une sorte de révélation ou est-ce que c'est quelque chose qui trottait déjà dans votre tête puisque aujourd'hui, vous êtes spécialiste et intervenant sur le sujet de la méditation de pleine conscience?
Alors, ça n'a pas été badaboum tout de suite, ça a été très progressif. J'ai découvert, moi, cette pratique qui est vraiment toute simple. C'est un nom qui peut faire un petit peu peur. Je vais peut-être le définir d'ailleurs dès maintenant.
Qu'est-ce que c'est que la méditation en pleine conscience?
C'est une traduction française d'une expression anglaise, d'un mot anglais qui est mindfulness. qui a été développé depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. C'est pour ça qu'on en parle maintenant en France, parce qu'il y a eu beaucoup d'études scientifiques portant sur le sujet.
Vous dites qu'on est très en retard.
Oui, on est très en retard sur
ça
le sujet.
Ça fait 20 ans. Il a fallu traverser l'Atlantique.
Alors, la définition, parce que ça permettra aux gens qui se creusent un peu la tête chez eux de savoir un peu plus précisément en quoi ça consiste. C'est tout simplement un entraînement de l'esprit à être le plus possible dans l'instant présent, intentionnellement. C'est-à-dire, on se dit, voilà, dans les minutes qui vont suivre, je vais faire le plus possible attention à porter, à être dans l'instant présent. Ça veut dire, à contrario, ne pas laisser son esprit sans arrêt vers le passé, vers le futur, à réfléchir à des problèmes, à regretter certaines choses. Voilà, on essaye d'être le plus possible présent dans l'instant.
C'est ce qu'on fait naturellement, tous, non?
C'est ce qu'on fait pas du tout naturellement. Je ne vous connais pas assez, mais peut-être que vous le faites spontanément. Les études montrent quand même que la plupart des gens passent 99% de leur temps dans le passé, dans l'avenir, à réfléchir à des problèmes, à regretter certaines choses.
C'est pas un peu embarrassant, parce que j'écoutais Diane qui nous disait tout
Diane
à l'heure
Cellier,
que
ouais.
Diane de Cellier, pardon, qui nous disait c'est une forme d'action détachée, en détachement. Donc, alors si vous êtes à la fois détaché et en même temps absolument uniquement dans le présent, pour un décideur, c'est pas un petit peu embêtant, alors qu'on demande à un décideur, un, de décider, mais deux, d'avoir une vision, de se projeter et de voir loin. Alors comment est-ce que ça peut se concilier?
Et je vais enchaîner, pardon Nadège, on a oublié de le préciser, c'est que si vous êtes aussi l'invité de Nadège, c'est que vous avez mis au point un site, vous y tenez beaucoup, c'est Méditation et Leadership, vous travaillez vraiment pour les décideurs, hein. C'est ça. Votre job à vous, vous êtes relié pour les décideurs, reliés, engagés, qui souhaitent pratiquer, échanger. Alors allez-y, voyons, on vous écoute.
C'est ce qui se passe en ce moment en France, même si on est en retard par rapport aux États-Unis, c'est assez étonnant. Il y a des comités de direction, donc CODIR, ou des comités exécutifs, donc COMEX, entiers, qui choisissent de passer 2 ou 3 heures, tous les 15 jours, par exemple, à ne faire rien d'autre que, en équipe, à pratiquer il y a de plus en plus d'entreprises, je peux pas toutes les citer, je travaille avec une dizaine de grands groupes de tout premier plan.
Le comité de direction, COMEX et CODIR.
Alors,
ils ferment les portes et
ils ferment les portes, ils coupent leur portable. Alors,
on se passe sur les doigts.
On rentre sur une perception qui est assez courante.
On vire tout le monde.
Qui est le tailleur, qui est être en tailleur, etc. Ouais. Avec une robe jaune, ce qui est pas du tout le cas. C'est vraiment
Patrick Ricard.
Ça pourrait. Mathieu Ricard, en tout cas.
Patrick
Ricard, je ne sais pas, mais Mathieu Ricard, oui. Il faut bien voir. Il faut bien comprendre. C'est un effort un entraînement d'esprit qui peut être qui est complètement laïque en fait, et qui est pas si loin finalement de nos origines aussi philosophiques, de nos origines européennes. Si vous regardez les stoïques, les stoïciens, les épicuriens, ils ont aussi ils invitent à cet effort d'être le plus possible dans l'instant.
Alors, ce que je propose, on va se retrouver on fait une pause.
Ok.
C'est le suspense. Et on se retrouve dans quelques minutes. Vous allez tout nous expliquer.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Avec Antoine Naman, le président du SS France, qui vient nous parler à la fois de ses recrutements, 100 postes cadres, 100 postes cadres à pourvoir, et puis les autres sujets RH qui nous intéressent de la semaine, du mois, de l'actualité. Et puis ça tombe bien parce qu'on a comme invité témoin côté culture Diane de Cellier, qui est la fondatrice des éditions qui porte son nom avec un premier livre, Le Bhagavad Gita. Ça y est, j'ai réussi à le dire. C'est bien ça?
Oui, c'est pas le premier livre, c'est le 25e.
Le 25e, non mais de ce type.
Sur la philosophie indienne, c'est le premier.
Ah voilà, mais ouf, vous m'avez sauvé. Illustré par la peinture indienne, on va y revenir. Antoine Naman, donc, est resté avec nous. Nadège Joyeux, dans quelques instants, on va reprendre la discussion passionnante avec Sébastien Henry, et on aura tout à l'heure Laurent Bernelat, directeur adjoint de BVA Opinion.
Moquez-vous, Alexandre, quand il va nous faire un petit essai en live, vous allez voir.
Transformé.
Je sens. Alors, c'était passionnant, j'ai fait un break parce qu'il faut toujours laisser un peu de ce qu'on appelle du teasing, laisser un peu de suspense. Alors, vous nous dites que vous travaillez avec des entreprises. Alors, il faut rappeler les livres, peut-être, je les ai sous les yeux, mais je vous laisse le faire.
Absolument. Alors, des livres qui sont vraiment très tournés vers l'action, puisque vous avez publié Quand les décideurs s'inspirent des moines, Ces décideurs qui méditent et s'engagent, Le leadership. Enfin, il y a quand même tout un tas de liens qui sont faits aujourd'hui entre quelque chose qui nous paraît très théorique et puis l'action au cœur des entreprises.
Pour ceux qui nous rejoignent, Sébastien Henry, qui est un ancien d'ESSEC, qui a fait sa carrière classiquement dans un groupe en marketing, qui a voyagé dans le monde, il était entrepreneur, vous allez me dire,
à Hong Kong.
À Hong Kong, et il se consacre maintenant à la méditation de pleine conscience, hein, vous nous rejoignez. Et il était en train de nous expliquer à Nadège et à nos invités qu'il avait des clients de très haut niveau, de grands groupes, des présidents qui fermaient les portes au moment du CODIR et qui faisaient de la conscience. Alors, de la méditation pleine conscience. Alors, il se passe quoi à ce moment-là?
Alors déjà, c'est un espace de temps qu'on se réserve pour sortir déjà de l'urgence de l'action. Et on n'est pas dans le tout, enfin, dans faire ça du matin au soir. C'est vraiment prendre quelques instants, quelques minutes, 5-10 minutes le matin, le soir, pour sortir de cette urgence permanente. Beaucoup de mes clients me disent, c'est du matin au soir, le tapis roulant, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Et c'est déjà prendre un peu de recul par rapport à l'action, ce qui nous permet aussi de nous relier à l'essentiel. Et il y a 4 thèmes, en fait, que je travaille le plus avec les dirigeants. C'est la connaissance de soi. C'est dans ces moments qu'on arrive aussi à voir comment notre esprit fonctionne. Mmh. C'est l'équilibre entre bien-être et performance. Voir comment on peut parfois perdre beaucoup d'énergie et gaspiller beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, finalement. C'est aussi la justesse dans la prise de décision. Et c'est la compréhension plus profonde des autres. Quand on est beaucoup plus déjà dans l'instant, on est beaucoup plus aussi en capacité d'écouter en profondeur les gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est 4 thèmes fondamentaux. Et je dirais, dans mon propre parcours, vous disiez tout à l'heure, c'était pas badaboum parce que ça a été pour moi un parcours progressif. J'ai commencé en 2000 ma pratique de la méditation. J'étais encore en France à l'époque, même pas encore parti en Asie. Et je me suis aperçu que ces moments que je prenais 15-20 minutes le matin, finalement, il nourrissait.
Alors, il se passe quoi dans ces 15 minutes
que... Il se passe de l'extérieur, pas grand chose.
J'ai pas lâché notre ami, notre invité, Antoine Namant, mais sur l'histoire de la description, pour être concret. Alors, vous, pour être concret, vous faites quoi le matin quand vous levez?
De l'extérieur.
Vous prenez votre café ou votre thé d'abord, ou bien?
Je fais.
Pas de café.
Ah non, pas de café.
J'adore. Je suis un fan de l'expresso. Ça, je n'ai pas coupé ça et je ne couperai pas. C'est un vrai plaisir quotidien. Alors, mais il se passe de l'extérieur, il se passe rien. De l'intérieur, il peut se passer beaucoup de choses, notamment quand vous êtes dans un moment de la journée où vous êtes dans une agitation, où il y a une émotion forte qui est là, qui vous embarque vers peut-être des pensées ou des paroles qui vont vous dépasser, ou emmener plus loin que ce que vous vous avez envie de dire ou faire. Ben voilà, il se passe que de l'intérieur, il peut y avoir une sorte d'apaisement de l'agitation de votre esprit, qui vous donne du coup beaucoup plus de lucidité sur vous-même, beaucoup plus de clarté aussi sur ce qui est vraiment essentiel.
Nadège et ensuite nos invités.
Absolument. Très concrètement, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement comportemental parmi les décideurs qui le pratiquent depuis combien de temps il faut pour que ça commence
avec
à apporter ses fruits?
Alors, deux questions. Je vais répondre d'abord à Nadège. Les études montrent, parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, on parle pas, ça peut paraître très soft et un peu collé au plafond, mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'il y a un impact réel sur les comportements au bout de généralement 2 ou 3 mois. Il faut une pratique assez régulière pendant quelques mois. Et après, je vais vous dire sur les effets, ce que me disent beaucoup de mes clients et des clients d'autres personnes qui les aident dans cette pratique-là. C'est d'abord beaucoup. Ce qui est frappant, il parle beaucoup plus de présence aux autres, beaucoup plus de présence dans les conversations avec les collaborateurs, aussi dans la famille. Ça, c'est un premier point. Et puis plus de sérénité, beaucoup plus de sérénité dans le quotidien. Voilà, être moins embarqué à droite à gauche en fonction des aléas de la vie du business qui sont. J'ai été entrepreneur en Asie moi-même. Il y a plein de journées où du matin au soir, ça n'arrêtait pas d'être intense.
Sébastien Henry, en vérité, dites-le nous. En vérité, dites-le-nous. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, vous les accompagnez, c'est ça?
Ouais.
Vous êtes payé?
Ah oui, je suis payé, oui.
Et la facture augmente de séances. Vous arrivez à la méditation fait qu'il
y a une telle sérénité.
Sérénité qu'à la fin, il paye encore plus cher. Non, je plaisante. Non. Non, mais je veux dire, c'est un job, c'est votre métier aujourd'hui?
Alors moi j'ai plusieurs casquettes, celle d'écrivain, d'auteur, d'accompagnateur d'équipe de direction, et puis c'est très important aussi pour moi, si vous voulez, cette pratique m'a tellement nourri depuis 15 ans que j'essaie aussi de la partager avec des personnes qui sont dans des grandes difficultés à cette étape de leur vie, et c'est ma troisième casquette en fait, de partager ça avec des prisonniers, avec des gens qui sont à la rue, avec des gens qui sont en fin de vie, et avec des enfants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur voix dans notre société. Je travaille avec les gens qui ont un pouvoir et de la puissance, et avec des gens qui n'ont pas du tout de pouvoir et pas du tout de puissance.
Alors,
et c'est très intéressant.
Dans le studio de nos invités, c'est normal, je vais commencer d'abord par vous, Diane de Sellier, vous qui venez de nous parler au tout début de l'émission de cette philosophie indienne.
Moi, je trouve la méditation de pleine conscience quelque chose de passionnant et de très très utile.
C'est une espèce.
Je pratique la méditation, pas spécialement de pleine conscience, mais je pense que ça se rapproche très fort. C'est simplement se poser, respirer, essayer de rentrer un petit peu en soi en se détachant de toutes ces pensées, de tout ce qui vient vous polluer, et essayer de retrouver un petit peu le cœur de ce que l'on est et de l'endroit où l'on est et de ce que l'on fait et de l'écoute effectivement à soi-même et aux autres. C'est quelque chose, c'est presque un exercice d'hygiène mentale, disons, si on veut pousser les choses un petit peu plus loin.
C'est un peu la prière du matin, quelle que soit la religion.
C'est une forme de prière, bien sûr.
Il y a l'analogie.
Disons que la prière est aussi une forme de méditation.
Ben voilà.
Oui, je le dirais plutôt dans ce sens-là.
Alors, je m'adresse cette fois au patron Antoine Naman, le président d'ISS France. Vous avez entendu, il travaille avec des entreprises, etc. Vous, votre position finalement sur ce sujet?
Je trouve la démarche tout à fait originale et intéressante. Je ne la connaissais pas, donc c'est intéressant d'entendre ce témoignage. J'avais peut-être une question par rapport à ça.
C'est
les CODIR ou les COMES qui vous mandatent sur ce type de mission, est-ce qu'ils se donnent un objectif de retour sur investissement ou un objectif particulier?
Une bonne question, oui. Alors, comment ça se mesure, finalement?
Comment ça se mesure?
Je dirais, il n'y a pas d'objectif précis de retour sur investissement. Comme d'ailleurs, si vous regardez la plupart des formations sur le leadership, il n'y a pas véritablement de retour sur investissement. C'est un pari. C'est un pari que font les dirigeants de se dire, voilà, on va faire une expérience de prendre 2 ou 3 heures tous les 15 jours en équipe pour déjà ralentir et essayer de se relier à l'essentiel, ce qui est essentiel pour nous en tant qu'individu dans l'équipe et pour l'équipe. Et on voit ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la plupart du temps, ils retirent des choses individuellement, pour eux en tant que personne, mais aussi dans la dynamique d'équipe. Il y a une écoute mutuelle beaucoup plus intense, beaucoup plus attentive. Et après, vous savez bien, le facteur humain, notamment au niveau d'une équipe, c'est difficile à mesurer. La confiance mutuelle, presque parfois l'amitié aussi, l'écoute plus profonde, c'est très difficile à mesurer, mais en revanche, ça se ressent. Et le ressenti, ça c'est important. On voit les visages, on voit l'atmosphère aussi qu'il y a dans la pièce.
Alors j'ai une anecdote à vous raconter. Je me souviens d'une interview d'Antoine Riboud, qui n'est plus là, qui était le patron de Danone, et qui disait, le journaliste, mon confrère, lui posait la question, comment vous, puisqu'on parle de recrutement dans cette émission, j'ai peut-être déjà raconté, mais tant pis, qui nous disait, mais comment vous recrutez vos cadres, vos managers? Ils disaient, c'est simple, une fois qu'ils ont été, le DRH m'a préparé les dossiers, j'en sélectionne 3 et je veux les voir chacun 30 secondes. Le journaliste lui dit, mais c'est court 30 secondes. Il dit, mais j'ai qu'une question à leur poser. Quelle est cette question? Lorsqu'ils arrivent dans mon bureau, ils entrent, je leur dis, bonjour, le matin, quand vous vous levez, vous prenez un bain ou une douche? Mon confrère lui dit, c'est surprenant comme question. Et Antoine Riboud dit au journaliste, mais vous, par exemple? Et mon confrère répond, moi je prends une douche parce que le matin, je prends vite ma douche pour vite aller travailler. Et je vous aurais pas engagé. Pourquoi? Parce que je te demande à mes cadres supérieurs, si je leur pose cette question, parce que naturellement, je veux qu'ils me répondent qu'ils prennent un bain. Parce que le matin, lorsqu'ils prennent un bain, ils se relaxent, on est peut-être dans la méditation, qu'ils réfléchissent à leur journée, qu'ils soient au calme pour pouvoir entamer leur journée d'une manière sereine et efficace. Est-ce qu'on retrouve un peu cette idée de la méditation?
Oui, je connaissais pas cette anecdote, mais c'est la même inspiration. C'est que je pense qu'on confond beaucoup. Il y a un gros malentendu sur ce que c'est que l'intensité de la vie. On a l'impression que la vie intense, c'est de courir du matin au soir. Et l'intensité, est-ce que ça pourrait pas être plutôt la qualité de présence qu'on a à soi-même et aux autres à certains moments de la journée? Et voilà, je trouve que c'est intéressant de voir aussi ça comme ça. Et juste peut-être pour terminer, parce que je sens qu'on va bientôt arriver à la fin, je vous dis à quel point j'ai envie de partager avec vous.
C'est formidable, la méditation de conscience.
Et Il a compris. Justement, ce qui est très intéressant, ce qui se passe en France, même si on est de retard, il y a des dizaines et des dizaines de managers et dirigeants qui s'intéressent de très près au sujet. Le site dont vous avez parlé tout à l'heure, la meditationleadership.com,
c'est le vôtre.
C'est un collectif, c'est pas uniquement moi, c'est moi qui ai contribué à le créer, mais c'est un collectif, c'est du non-profit d'ailleurs, c'est plus associatif. Mais c'est comment, à un moment je me suis demandé, j'en ai vu de plus en plus qui me contactaient pour mes livres, qui me demandaient comment vous pouvez nous aider, et moi je me disais, je pouvais pas forcément les aider par manque de temps, et puis aussi parce que je suis pas toujours bien placé, géographiquement, etc. Et je me dis, comment je peux les aider? La meilleure façon que j'ai trouvé de les aider, c'est de les mettre en relation entre eux. Et donc, meditationleadership.com, c'est une communauté grandissante de décideurs, managers, dirigeants, qui s'intéressent de près à la méditation, qui veulent pratiquer ensemble et qui veulent échanger sur l'impact et le sens qu'ils donnent à leur action. Et il y en a de plus en plus, et c'est assez passionnant de voir
ça. Une dernière question de Dadej Joyeux. Très courte réponse.
Et les plus jeunes demandent ça, effectivement. Alors moi, juste une dernière question. Si l'entreprise n'est pas mûre, parce qu'on peut imaginer aussi que ça reste tabou, on a de la relaxation, de l'antistress, etc., de là à aller à une démarche de méditation...
Il y a des tas de choses qui sont proposées dans l'entreprise.
Oui, mais est-ce que la méditation de pleine conscience, on est mûre ou pas en France? Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que cadre, en tant que décideur, si je ne suis pas COMEX et que je veux pratiquer cette méditation de pleine conscience? Concrètement, demain, je fais quoi?
Vous achetez le bouquin.
Mais j'embarque Alexandre avec moi dans un séminaire, dans un stage.
Je pense que le plus simple, il y a les livres, des livres même qui s'adressent au plus grand public, comme Christophe André, Méditer jour après jour, sont des bonnes portes d'entrée. Et puis il y a une très belle application qui s'appelle Petit Bambou, propose des méditations très spécifiques sur le monde de l'entreprise, des pratiques laïques, toutes laïques, liées au monde de l'entreprise. Et c'est une très belle façon, c'est une très belle équipe aussi, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Donc ça peut être très concret. Voilà, l'application Petit Bambou.
Sébastien Henry, juste avant de vous quitter, parce que je sais que vous devez partir, le site internet où on peut prendre le relais de ce que vous venez de nous dire, on va le répéter.
Alors,
www.meditationleadership.com.
et puis plus spécifiquement sur mon travail.
Méditation.
Méditationleadership.com, tout attaché.
www.meditationleadership.com.
Donc ça, c'est une association. Et puis après, il y a mon site personnel, sébastienhenry.com, si les auditeurs en savent plus.
Henry, H-E-N-R-Y.com.
Tout attaché, ouais.
Voilà. Voilà, si vous voulez retrouver, et c'est un véritable grand expert, Sébastien Henry, de ce sujet. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer comment ça fonctionne, la méditation de pleine conscience. Merci
à
vous,
Nadège
Joyeux.
À bientôt,
très bientôt. Notre expert.
Merci, Nadège.
Super expert.
Merci, Sébastien.
Super expert. Vous reviendrez très bientôt.
Oui, un sujet encore plus difficile pour vous, Alexandre.
Aïe.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Voilà, pendant que notre ami se lève parce qu'il doit prendre un taxi, il attend. Sébastien Henry, merci d'être venu. Et Nadège Joyeux, vous pouvez rester avec nous dans le studio. J'avais promis, Antoine Naman, que vous seriez avec nous pour nous dire quels sont justement les plus que vous attendez des candidats. On peut peut-être les redonner. ISS, pour ceux qui veulent vous rejoindre.
Alors d'abord, une volonté de travailler avec l'humain. Ça, c'est fondamental. Si vous n'aimez pas l'humain, si vous n'aimez pas le contact humain, on n'est pas une entreprise intéressante parce que notre principal actif, c'est les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. Oui. La deuxième qualité, c'est d'avoir envie de délivrer des services, d'avoir envie d'être positif, d'avoir une démarche.
Et je repense aux 100 cadres que vous souhaitez recruter, que vous allez recruter. Les postes sont-ils ouverts aujourd'hui? Ils sont ouverts?
Il y a un certain nombre qui sont ouverts.
Lesquels?
Tout au long de l'année,
par exemple, dans l'urgence. Est-ce qu'il y a des postes, là,
dans des postes ouverts, on a des postes de responsable d'exploitation. Vous en avez un petit peu partout en France. Ça peut être un poste responsable d'agence. On recherche quelques responsables d'agence à travers la France, des directeurs de contrat sur des postes de type coordination de l'ensemble de nos services sur un client, chez un client. On a des postes au niveau des ingénieurs commerciaux que l'on recherche un petit peu partout sur la France, des ingénieurs d'études aussi que l'on recherche à Paris et en province. On a des postes au niveau des fonctions support, dans le contrôle de gestion, on a quelques postes qui sont ouverts en ce moment. On a des postes de chef de projet aussi qui sont disponibles. On a beaucoup de postes et progressivement, vous avez un certain nombre de ces postes qui vont être mis sur le marché tout au long de l'année.
Oui, on peut les retrouver à la fois sur votre site.
Tout à fait, sur notre site internet.
ISS.fr ou .com, je ne sais plus.
Alors,
ISSworld.fr. C'est bien ça. Et on peut aller sur Mediarh.com, on peut retrouver. Il y a un lien pour pouvoir poser candidature. On l'a bien entendu, ce sont des postes absolument disponibles, évolutifs. Ça, c'est très clair.
Tout à fait.
Et je suis ravi que vous soyez là. Vous restez avec nous.
Avec plaisir.
N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres envies de préciser d'autres choses. Je rappelle que vous êtes le patron, le président de ISS France. Face à vous, dans ce studio, il y a Diane de Cellier. Vous m'avez promis également d'être très clair, Diane, sur comment devient-on éditeur. Tout à l'heure, on va entendre Laurent Bernelat. Mais avant, cette question. Moi, ça me bluffe vraiment. Votre parcours, d'abord, pour en arriver à vous-même fonder votre maison d'édition.
Écoutez, mon parcours, pour le dire très rapidement, j'étais journaliste, journaliste critique littéraire. J'ai travaillé en librairie et j'avais une passion pour le livre.
Et vous avez joué au loto, vous avez touché 200 millions d'euros.
Je n'ai pas joué au loto, je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé dans une maison d'édition pendant un an. Et puis, je me suis fait mon propre petit réseau de maquettistes, de photograveurs, de tout ce qui constitue une équipe de livres. Et quand j'ai décidé de prendre ma liberté d'éditeur...
De créateur d'entreprise,
c'était le désir de partager de ce que j'aime. J'avais commencé par des guides, un guide des sports à Paris et un guide qui s'appelait le Paris des tout-petits pour aider les parents qui avaient des enfants à Paris. Et j'ai revendu ces deux ouvrages-là pour me lancer quelques années plus tard dans ce qui fait vraiment le cœur de mon métier aujourd'hui. Ce sont les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres.
Par exemple,
le tout premier, c'était les Fables de La Fontaine, 245 fables, il a écrit La Fontaine, illustrées par les 275 gravures en couleur de Jean-Baptiste Oudry, qui était peintre du roi et qui avait fait une édition
magnifique,
tout à fait exceptionnelle.
Et ce livre existe toujours?
Ce livre existe toujours.
Toujours en vente.
Bon, je faisais de l'édition comme tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de livres, ça c'est important que
j'ai compris. Mais créer une entreprise d'édition, c'est combien de personnes aujourd'hui?
Au début, j'ai démarré seule.
Chez vous?
chez moi, en appartement, parce que j'avais envie de réaliser des livres et d'être au cœur de mon travail.
Aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, nous sommes une équipe qui varie entre 4 et le maximum que nous ayons été, c'est 7 personnes.
Vous n'êtes plus chez vous ?
Je ne suis plus chez moi. On a des bureaux au 19 rue Bonaparte, donc on est vraiment dans le cœur du quartier des éditeurs.
Saint-Germain-des-Prés.
Et on a énormément, Saint-Germain-des-Prés, et on a énormément de personnes qui gravitent autour de nous, maquettistes, correcteurs, attachés de presse évidemment, photographeurs,
vous employez
imprimeurs,
beaucoup de monde, oui, en dehors de 400 personnes qui vous accompagnent.
En dehors du cœur du nœud costaud qui crée les livres et qui s'occupe de les faire connaître. Et
comment les gens viennent à vous, les auteurs, ou vous allez vers eux ?
Non, c'est uniquement des projets qui sont conçus par notre équipe. C'est tout à coup de dire, tiens, ce texte-là, il est extraordinaire, il faut absolument le faire connaître. Et la meilleure façon de le faire connaître, c'est de trouver tout un corpus d'images qui va permettre de dialoguer avec le livre et de lui répondre. Par exemple, l'année dernière, nous avons publié Rimbaud, Poésie, une saison en enfer et Illumination, illustré par la peinture au tournant du XXe siècle. Donc une manière de lire Rimbaud en images.
Diane, je vais vous poser une question en direct. Je rappelle qu'on est sur BFM Business, c'est le but de l'opération.
Oui, on est très business.
Voilà. Je sais que ça choque parfois, mais
non.
C'est la vie, le business. Bon,
absolument.
D'une certaine manière. Et on est curieux, c'est notre job. Aujourd'hui, c'est une entreprise rentable, la vôtre ?
C'est une entreprise plus ou moins rentable. C'est-à-dire que quand on réussit bien le livre, on n'en fait qu'un par an. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, quand notre livre fonctionne bien, on en fait un par an comme nouveauté, comme création. Et maintenant, on les décline dans ce qu'on appelle la petite collection. Oui. Mais quand on réussit bien notre livre et qu'on le vend, comment on doit le vendre ?
C'est
vendre 4000 exemplaires par an.
Ah, pour un bel ouvrage.
Pour une nouveauté. Et voilà. Plus faire vivre le fonds. Voilà. On a un fonds qui est très très riche parce que ce sont tous des livres de patrimoine à lire.
Oui, alors si vous avez besoin, Diane de Cellier, d'avoir un accueil, même sur un petit coin de bureau, de trouver une hôtesse pour accueillir vos auteurs,
j'appelle,
pour faire le ménage, pour régler l'ascenseur dans l'immeuble, vous appelez.
J'appelle tout de suite Antoine Naman en direct.
Avec plaisir.
Mais vous êtes prêt à. Vous travaillez aussi pour des PME, j'en suis sûr, je pourrais aller
devant vous. J'ai bien retenu l'arbre de Noël.
On viendra vous l'installer.
Bon, on est ravis de faire découvrir aux auditeurs de BFM Business comment la passion peut amener la création d'entreprise.
Oui, vraiment, c'est un travail de passion. Voilà. Il faut être passionné.
Et le numérique ne vous fait pas peur ?
Non, on a fait des livres numériques parce qu'on n'arrêtait pas de nous demander pourquoi, qu'est-ce qu'on pensait du numérique, et la meilleure réponse est de le faire.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors, dernière séquence, c'est avec notre ami Laurent Bernelat, directeur adjoint de BVA Opinion, qui, chaque mois, très aimablement, nous propose une enquête nationale sur un sujet qui touche notre centre d'intérêt, c'est-à-dire l'emploi, les RH, les ressources humaines, le management. Le mois dernier, on a fait un carton plein, toute la presse a repris, hein, Laurent Bernelat. C'était sur le fait religieux en entreprise.
L'enquête le mois dernier était effectivement sur le fait religieux en entreprise, et c'est une enquête qui a été beaucoup reprise dans la presse parce qu'il y a assez peu de chiffres sur le sujet. On en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui est assez peu mesuré en entreprise.
Alors, cette fois-ci, je pense qu'on aura également, on le fait pas pour ça, mais on le fait pour notre propre curiosité, on choisit nos sujets, et là on a choisi les salariés et le droit du travail. Une enquête nationale, et ça tombe pile poil parce que, mine de rien, les salariés et le droit du travail, dans cette période politique dans laquelle on est, c'est un vrai sujet que tous les candidats à la présidence évoquent à un moment donné et d'une manière plus ou moins forte, mais c'est un vrai sujet. Donc vous êtes allé voir, vous êtes allé à la rencontre des Français, une enquête du 10 au 16 novembre, on le précise, auprès d'un échantillon représentatif, c'est BVA qui l'a fait, de 1001 salariés français d'entreprises de toute taille. Selon la méthode des quotas, si vous le voulez, allez sur notre site, vous allez voir les engagements de BVA. Alors, quels sont les principaux enseignements de cette enquête sur finalement le code du travail? C'est le sujet que tous les politiques vont aborder.
Alors, c'est un sujet qui a beaucoup été abordé, et notamment sous l'angle de la complexité du code du travail. On met souvent en avant le nombre de pages, alors certains évoquent plus de 3000, ça dépend si on compte les annexes ou pas, et le nombre d'articles, plus de 10 000 articles. Et le débat, en fait, se cristallise autour de la simplification ou non de ce code du travail. Donc nous, on a cherché à en savoir plus auprès des salariés, et tout simplement, nous leur avons demandé, pour commencer, si déjà ils avaient ouvert ou feuilleté un code du travail.
Aux surprises.
Aux surprises, moins d'un salarié sur deux, 46%, a déjà ouvert ou feuilleté un code du travail.
Déclare connaître, un sur deux déclare connaître le droit du travail.
Voilà, et la même proportion, un sur deux, 46%, un peu moins d'un sur deux, déclare connaître le code du travail en vigueur en France. À un détail près, seuls 4% déclarent très bien le connaître. Donc, il y a globalement
donc
une connaissance
assez
floue. Donc,
tout le monde en parle, il n'y a que 4% qui le connaissent.
Mais qui le connaissent bien.
Oui. OK. Concrètement, les salariés sont également un peu moins sur deux, dites-vous, à avoir déjà ouvert ou feuilleté.
C'est ce
qu'il faut garder comme chiffre.
Voilà. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ceux qui nous disent qu'ils connaissent à peu près le droit du travail en France, tous n'ont pas ouvert un code du travail. Deux tiers de ces derniers ont déjà ouvert. Donc on est vraiment sur une connaissance très partielle et sur quelque chose qui reste flou pour les salariés.
Alors, deuxième enseignement, Laurent Bernula, directeur adjoint de BVA, c'est toujours sur cette enquête auprès des Français, on peut le dire, puisque c'est représentatif, des salariés très partagés quant à leur niveau de connaissance du droit du travail, mais unanime à estimer qu'il doit être simplifié. Ça, c'est une petite bombe atomique, ça aussi.
Voilà.
Personne n'avait posé la question.
Pour le coup, c'est quand on leur demande s'ils connaissent ou pas, on est sur des scores qui sont partagés 1 sur 2. En revanche, c'est quand on leur demande si le code du travail en vigueur en France doit être simplifié en profondeur, seulement pour certains articles ou ne pas être simplifié et rester tel quel, ben les résultats sont unanimes. 92% nous disent que le code du travail doit être simplifié et 57% nous disent, donc encore une fois une majorité écrasante, qu'il doit être simplifié en profondeur. Alors c'est à la fois étonnant et pas étonnant. Autant ce constat était clair et limpide de la part des dirigeants d'entreprise. En revanche, du point de vue des salariés, suite au débat et aux manifestations qu'il y a eu notamment à l'occasion de la loi El Khomri, ce résultat est plus étonnant dans la mesure où, en fait, les salariés, dans leur grande majorité, sont pour une simplification
de ce code du
travail. Et ils
sont pour une simplification, disent-ils, à 65% des salariés, qu'une simplification serait de nature à favoriser l'emploi. C'est ça qui est intéressant.
Alors,
selon eux,
simplifier, mais l'intérêt, c'est pourquoi on simplifie. Et de leur point de vue, une simplification de ce code du travail irait dans le sens de favoriser l'emploi en France. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on constate toujours des écarts entre différentes populations, les jeunes, moins jeunes, les cadres, les non-cadres. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de remarquer que sur toute cette enquête, les résultats sont relativement homogènes au sein de toutes les catégories de salariés.
Enfin, Laurent Bernula, dernier constat. Pour autant, en ce qui concerne plus précisément le contrat de travail, et là on touche le nœud du fond de la fusion du centre de la Terre, la réponse est terrible. Un salarié sur deux privilégierait le statu quo pour favoriser l'emploi avec le maintien de la coexistence du CDI et du CDD actuel.
Alors, il y a deux manières de lire ce résultat. Il y a le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Nous leur avons demandé si on leur a proposé les deux solutions, ou maintenir la situation actuelle avec la coexistence du CDI et du CDD, ou avoir un contrat de travail unique à durée indéterminée, mais plus souple pour le salarié et pour l'employeur que le CDI actuel. Ouais. Et en fait, on est vraiment à 1 sur 2 sur chacune de ces positions. Donc, un attachement au CDI qui était très marqué auparavant reste fort, mais commence à s'effriter. Au fur et à mesure qu'on a un chômage persistant en France, vers une formule qui pourrait être un contrat unique plus souple.
Alors, une minute de commentaire avec nos invités. Je me tourne d'abord vers le chef d'entreprise Antoine Naman. Une minute, votre réaction. Qu'est-ce que vous venez d'entendre ?
Très rapidement, c'est assez rassurant. C'est-à-dire que si tout le monde veut aller vers la simplification, je pense que c'est le sujet qu'il faut travailler en France. Simplifier pour être plus efficace, simplifier pour être plus simple dans notre façon de fonctionner, que ce soit en entreprise, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou les salariés.
Bien sûr.
Le code de travail, je pense qu'il est là pour réglementer un fonctionnement entre des salariés et l'entreprise. Il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit compréhensible de tous.
Diane de Sellier.
Oui, moi je pense simplification, mais peut-être aussi fluidification. Est-ce que cela va ensemble ? C'est-à-dire, est-ce que simplifier le code du travail et tout ce qui règle le code du travail va vers plus de flexibilité et de fluidité.
Alors, je le répète, ça va être un des grands sujets, un des grands thèmes d'échange, voire de bagarre, en vue de cette présidentielle. Merci, Laurent Bernelat. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint. Je recherche votre titre exact. Voilà, directeur adjoint
de BVA Opinion.
BVA Opinion. Merci mille fois. Merci à vous tous. Vous retrouverez le détail à la fois de cette enquête sur notre site mediarh.com, le détail des postes à pourvoir chez ISS France avec Antoine Naman sur notre site. Merci à vous, Diane de Sellier, on dit bonne chance.
On dit bonne chance.
Voilà, on était ravis de vous donner la parole pour vous permettre de faire découvrir votre maison d'édition avec notamment la Bhagavad Gita. Qui viennent sortir.
Merci beaucoup.
Merci à Nadège Joyeux, à Sébastien Henry et à Michel Affis, notre réalisateur. Je vous souhaite un excellent samedi après-midi. Ça va faire causer, hein. Ça va faire causer l'enquête, là. Laurent Bernelat. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci.
Merci beaucoup, Alexandre.
Et on espère que beaucoup d'auditeurs vont se manifester. Ils vous ont entendu. Je suis sûr que vous les avez séduits. Vous leur avez donné envie d'aller chez ISS. À samedi prochain.